abordons aujourd'hui la leçon 4 sur les mystères en général et le mystère de la Sainte Trinité en particulier. Tout ce que nous avons dit sur Dieu jusqu'à présent, à part le petit passage sur la nature de la révélation, on aurait pu le dire en bonne philosophie, c'est-à-dire sans avoir précisément cette révélation. Et nous savons déjà pourtant beaucoup, beaucoup de choses sur Dieu, son existence, sa causalité universelle, qu'il est immobile, qu'il est une intelligence suprême, qu'il est nécessaire, qu'il est créateur. Et le but de toute chose, non pas créateur, mais but de toute chose. Et puis nous avons dégagé la toute-puissance de Dieu, le fait que Dieu soit partout, sa simplicité, son infinité, son éternité, sa providence. Et puis une dernière chose qu'on aurait pu également développer très rapidement, que Dieu est amour. Alors ça, c'est une chose historiquement très curieuse, qu'il y ait de l'amour en Dieu. Philosophiquement, c'est pourtant, j'allais dire, aussi évident que le précédent, mais néanmoins, les philosophes ne l'ont jamais soupçonné. Si vous prenez la philosophie grecque, d'une part, qui est toute intelligente, ou encore les religions extrême-orientales, il n'y a pas d'amour en Dieu. Alors que pour nous, catholiques, si vraiment il y a une caractéristique de Dieu, j'allais dire, et puis qui nous est très, très importante et vitale, c'est qu'il y ait de l'amour en Dieu. On peut le prouver de la même manière, hein, là où il y a une intelligence, il y a un amour. Il y a toujours un amour correspondant à l'intelligence. Entre un sujet et un objet, il y a deux mouvements possibles. Le mouvement qui va du sujet vers l'objet et qui s'appelle l'amour, précisément, et le mouvement qui va de l'objet vers le sujet et qui s'appelle la connaissance. Et dès lors qu'il y a en Dieu une connaissance toujours en acte, on reverra l'intelligence de Dieu plus en détail, il y a évidemment aussi un amour, et un amour qui est infini comme l'être de Dieu. Voilà, quel est l'objet de l'amour de Dieu? C'est d'abord lui, comme l'objet de son intelligence, c'est lui. C'est l'essence divine qui est d'exister. Voilà, et donc il y a en Dieu un amour que nous ne soupçonnons pas, que nous allons revoir tout à l'heure dans le mystère de la Sainte Trinité, puisque c'est j'allais dire, l'expression très exacte de l'amour de Dieu. Saint Thomas a cette phrase magnifique, « Bonum diffusivum sui », hein, le bien est quelque chose qui se communique lui-même, au sens qu'il communique de ce qu'il a. Et donc, si nous sommes là pour parler de tout ça, ben c'est précisément qu'il y a un amour en Dieu. C'est très étonnant que les Grecs n'aient pas imaginé que Dieu était d'amour. Regardez le logos des philosophes, ils ont imaginé une très belle connaissance en Dieu. Regardez le nous d'Anaxagore. Bon, c'est Dieu qui ordonne tout, qui est l'intelligence suprême, voire infinie, qui transforme le chaos en cosmos. Mais est-ce qu'il aime ce qu'il a fait? Est-ce qu'il aime l'être? Et en plus, les Grecs n'avaient pas tellement une notion de l'amour, par la raison qu'ils acceptaient, sans que ce soit une erreur philosophique, que le monde soit éternel, mais néanmoins créé par Dieu. Hein, pas créé dans le temps, mais puisque Dieu est cause de tout, c'est qu'il est le créateur. Mais il ne pouvait pas soupçonner que ce créateur aime ses créatures, et ça, c'est vraiment étonnant. Il a fallu la révélation pour que les hommes devinent que Dieu les aime. Voilà. Donc nous rentrons dans cette quatrième leçon des mystères. Nous allons définir les mystères, c'est très important. Alors maintenant, il faut la foi. Parce que sans la foi, cette leçon ne veut plus rien dire. Hein. Tandis qu'avant, tout ce qu'on a dit sur Dieu, à la limite, les païens devraient l'accepter. Ils ne le font pas parce qu'il y a toutes sortes de raisons, d'obstacles, de corruption morale, d'obscurcissement de l'intelligence. Ils devraient en arriver là, ils ne le font pas. Mais enfin maintenant, là, nous plongeons radicalement dans la foi. C'est ce que dit l'introduction. Tout ce que nous avons dit de Dieu jusque-là devrait être affirmé par les seules forces de notre intelligence naturelle. Pourtant, nous savons beaucoup d'autres choses sur Dieu par la révélation, des choses qu'il est impossible de savoir autrement que par la foi. Ce sont ce qu'on appelle les mystères. Le catéchisme des enfants énumère 3 mystères. On verra qu'en vérité, il y en a beaucoup plus. Les 3 mystères énumérés par tout catéchisme pour les enfants, c'est bien sûr la Trinité, l'Incarnation et la Rédemption. Mais vous verrez au paragraphe 3 de cette leçon qu'il y a beaucoup d'autres mystères. Et pourquoi il y a beaucoup d'autres mystères, nous le dirons tout à l'heure. Mais d'abord, grand A, définition des mystères. On appelle mystère une vérité tout à fait certaine. Vous voyez, il faut enlever de ce mot mystère au catéchisme, enfin en doctrine catholique, tout ce que le mot mystère véhicule dans la langue courante française. Mystère, c'est un truc compliqué, obscur et incertain. Quand vous ne comprenez pas quelque chose dans la vie courante, ah oui, c'est un mystère. Pourquoi la machine à laver est tombée en panne? Ah ben c'est un mystère, on ne sait pas d'où ça vient. Hein? Etc. Pourquoi celui-ci nous fait la tête aujourd'hui? Ah, c'est un mystère. Vous voyez? Et tout ça est très incertain et on ne comprend rien. Et c'est pas du tout ça, le mot mystère. Hein? Mysterion en grec, ça veut dire une chose cachée. Alors, pour celui qui l'observe, effectivement, elle recèle ce que nous appelons mystère dans la vie courante. Mais en elle-même, elle n'est pas du tout mystérieuse. Je vais y revenir tout à l'heure. Hein. Mystère est une vérité tout à fait certaine. Il n'y a rien de plus certain que les mystères. Vous vous souvenez, quand on a vu la révélation, on a dit que tout ce qu'on disait sur Dieu avec l'intelligence naturelle, c'était certain. Mais le degré de certitude atteint par la révélation est beaucoup plus fort, bien évidemment, parce que c'est Dieu qui garantit tout cela. Et qu'on a beaucoup plus de certitude à s'appuyer sur l'intelligence divine qu'à s'appuyer sur la nôtre. Donc, quand on plonge dans la foi, et dès lors qu'on a la foi, les vérités qu'on appelle les mystères sont beaucoup plus certaines que tout ce qu'on a dit déjà sur Dieu. Donc, enlever de ce mot mystère tout ce qui est incertain, d'une part. Qu'il faut absolument croire pour être sauvé. On a vu quand on a étudié la révélation que la grande différence de ce qu'on connaît sur Dieu par la révélation par rapport à ce qu'on connaît sur Dieu par l'intelligence naturelle, c'est que la révélation sauve. C'est une vie, la révélation. Dès lors qu'on croit des choses qu'on ne peut pas découvrir par la raison, on fait confiance à Dieu. Il y a donc une vie entre Dieu et nous, il y a un échange. Tous les philosophes grecs ne se sont pas occupés de Dieu. Et pourtant, il disait de fort belles choses sur Dieu. Vous voyez ? Donc, c'est la révélation qui sauve. Et pas du tout la théodicée, c'est-à-dire la science de Dieu par la raison naturelle. Que nous devons croire pour être sauvés ? Donc, c'est très important, la révélation sauve, tandis que la connaissance ne sauve pas. Mais qui, par sa nature même, dépasse les forces de notre intelligence. Et c'est la seule caractéristique des mystères. C'est qu'ils sont trop forts pour notre intelligence. Si vous voulez, il y a comme trop de soleil. C'est comme ces oiseaux de nuit, les chouettes et les hiboux, je crois. Hein. Bon, eh bien, ils ne voient pas parce qu'il y a trop de lumière. Donc, ils se baladent la nuit, et c'est là qu'ils commencent à voir. Ils ont des yeux, hein, ces oiseaux-là. Et ils voient, mais dans une toute petite clarté, pratiquement, ils voient presque dans la nuit. Enfin, il faut quand même un peu de lumière, parce que là où c'est l'obscurité totale, même les chouettes, elles ne voient rien. Mais enfin, bref, ils ne voient pas le jour parce qu'il y a trop de clarté. Mais c'est exactement notre cas vis-à-vis des mystères. Ils dépassent les forces de notre intelligence. On notera donc qu'un mystère n'est pas mystérieux, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en lui-même. Il est même tout simple et tout lumineux. Il n'y a pas de vice caché dans un mystère, de quelque chose de bancal, de quelque chose d'absurde, on va y revenir. C'est uniquement à cause de nous qu'il y a des mystères. C'est pas en Dieu, il n'y a pas de mystère. Si vous voulez. En Dieu et par rapport à Dieu, il n'y a pas de mystère. Voilà. Il y a des mystères par rapport à nous. C'est notre intelligence qui fait le côté mystérieux des mystères. Enfin, c'est pas notre intelligence qui fait les mystères. Bon. Mais c'est notre insuffisance intellectuelle qui fait que nous sommes obligés d'appeler ça du mot mystère. En vérité, si on était très intelligent, si on était aussi intelligent que Dieu, il n'y aurait aucun mystère pour nous. Pas plus qu'il n'y a de mystère pour Dieu. Voilà. Dieu est infini, et ben il voit en permanence toute son essence en acte, dans un seul acte d'intelligence, et il n'y a aucun mystère en Dieu pour lui. Oui.
Et au ciel, est-ce qu'il y a encore pour nous des mystères? On comprendra mieux, mais on comprendra.
Oui et non. Saint Thomas a une question dans la Somme. Oui et non. Non, en ce sens que le mode de connaissance étant la vision faciale, c'est-à-dire l'essence de Dieu étant directement ce qui est connu par notre intelligence sans intermédiaire conceptuel, attirail et tout le Bataclan d'ici-bas, donc là, il n'y aura pas de mystère. Par rapport à ce que nous verrons, il n'y aura aucun mystère. Mais, comme évidemment une intelligence créée, et quelle que soit La lumière de gloire qu'elle reçoit ne peut percer toute l'étendue de Dieu, mais il n'y a pas d'étendue en Dieu, enfin vous comprenez ce que je veux dire, alors il y aura encore des mystères. Des mystères qui ne nous gêneront pas, parce que... parce qu'il y aura toujours un au-delà pour nous de Dieu. Hein. Ça, on n'en fera pas le tour de Dieu. Voilà, si je puis dire. Mais ce n'est pas une question d'étendue, c'est là où on perd pied un peu. Hein. Alors, oui et non. Il n'y a pas de mystère. Il n'y aura plus de mystère par rapport au mode de connaissance. Et ce que nous le verrons dans la pleine lumière. Voilà. Seule l'intelligence de Dieu peut, comme dit saint Paul très justement dans la première aux Corinthiens, hein, c'est l'esprit de l'homme qui scrute les profondeurs de l'homme, et c'est l'esprit de Dieu seul qui scrute les profondeurs de Dieu. Voilà. Donc, pour scruter la profondeur de Dieu, mais il n'y a que l'esprit de Dieu. Voilà. Même les plus grands saints, même la Vierge Marie, ne saura pas tout sur Dieu. C'est impossible. C'est impossible parce qu'il faut une intelligence infinie et qu'aucune intelligence créée n'est infinie. Voilà. Parce que la nature de Dieu est infinie, parce que Dieu est infini. Vous verrez, c'est d'ailleurs pourquoi il y a des mystères. Mais voyez, tout le côté, et ça nous aide à comprendre ici-bas, tout le côté mystérieux nous vient de notre intelligence, de la limite de notre intelligence. Et ça, c'est commun entre le ciel et la terre, parce que notre intelligence sera quand même limitée au ciel. Voilà. Deuxième point, deuxième note, qu'il n'est donc pas du tout contradictoire ou absurde, comme disait Luther. Hein. Luther a repris cette formule d'ailleurs de Tertullien. Tertullien, père de l'Église, mort en 207, catholique jusqu'en 200 et hérétique à partir de 200. Tertullien, une âme de feu du type Pascal ou du type Saint-Augustin, et qui était qui nous a rendu de grands services. Bon, l'œuvre très connue de Tertullien, aidez-moi, c'est l'Apologeticum, hein. Et pour des gens qui suivent la tradition, c'est très important, parce que le grand argument de tous ces pères, mais surtout ce Tertullien, c'est précisément que contre les hérétiques, qu'est-ce qu'on fait? On garde la tradition. Non mais c'est comment il appelle ça, c'est, j'ai oublié le nom de l'argument, il a un nom précis. Les gnostiques mettent pratiquement l'Église par terre, et comme on n'a qu'un argument, ben, est-ce que les apôtres enseignaient ça? Est-ce que leurs successeurs l'enseignaient? Et comment savoir ce que les apôtres enseignaient? Ben, parce qu'ils ont désigné des successeurs qui enseignaient ça. Puis c'est tout ce qu'on veut savoir. C'est quand même très fort, parce que cet argument est mis au point quand même au deuxième siècle, pratiquement à la charnière du premier et du deuxième siècle, et c'est le grand argument de tous les évêques. Voilà, c'est l'argument de prescription, le nom me revient, la prescription contre les hérétiques. Ils sont prescrits, les hérétiques, parce que ils n'ont pas la succession apostolique, ils ne sont pas garantis, donc il y a une prescription dans leur doctrine. Voilà, en termes de droit, ils ne sont pas garantis par la succession apostolique. Je ferme la parenthèse sur l'argument de prescription de Tertullien, mais il faut le connaître, vous pouvez lire l'Apologeticum. Mais seulement à partir de 200, Tertullien devient montaniste. Les montanistes, ce sont les charismatiques de l'époque, des gens qui, tellement persuadés en lisant certains passages de l'Écriture que la fin du monde est pour, non pas demain ou après-demain, mais pour dans 5 ou 10 minutes, alors ils proscrivent le mariage, ils interdisent d'acheter et de vendre, etc. Ils se réunissent tous dans la plaine de Cataphrygie, là, avec deux bonnes femmes complètement cinglées. Mais c'est ça la vérité, hein. Et Tertullien, le grand Tertullien, a marché dans la combine. S'est réfugié là-bas, faisait des allers-retours. Enfin, vous voyez, comme ceux qui sont démangés par les apparitions, hein, et qui en deviennent complètement cinglés. Il est devenu un peu cinglé, enfin théologiquement cinglé en tout cas, Tertullien. Il est carrément hérétique à partir de l'an 200. Alors il n'est pas canonisé bien sûr, mais on ne peut pas jeter tout Tertullien aux orties, parce que jusqu'en 200, même les pères de l'Église, saint Augustin citera Tertullien abondamment, hein, saint Irénée aussi. Voilà, donc il faut distinguer deux parties dans l'œuvre de Tertullien, en gros, avant 200 et après 200. Et bien c'est lui qui a créé le premier cette formule, credo quia absurdum. Vous voyez déjà le côté excessif de ce bonhomme, qui est très agréable à lire, hein, vous croiriez lire du Pascal ou du Saint-Augustin, hein, très agréable à lire, mais excessif. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit sur Dieu par la raison naturelle, ça, tout ça, c'est aux orties, ça vaut rien. ça vaut rien. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on est sauvé par Dieu? On lui fait une telle confiance qu'on est prêt à croire même des choses complètement stupides, contradictoires et absurdes. Alors pensez, on a une foi beaucoup plus grande. Et vous imaginez bien que Luther va reprendre ça. Ça colle parfaitement à la doctrine de Luther. Alors le credo cui absurdum, on l'attribue à Luther, il est tertullien en définitive. Hein. Je crois parce que c'est absurde. On a l'impression, vous voyez, que la foi est beaucoup plus belle quand elle est capable de croire des choses qui révolte l'intelligence. Alors il faut une sacrée foi, imaginez. Hein? Voilà. Alors ça, c'est typiquement luthérien. Typiquement luthérien. La foi luthérienne, c'est ça. C'est-à-dire que... d'ailleurs, bon, il n'y a que la foi seule, bon, qui sauve. Les mœurs et la vie ne comptent pas. Et où est le mérite de notre foi? Ben, il est de croire des choses qui sont complètement absurdes. Non pas ce qui dépasse l'intelligence, mais qui sont contradictoires. Vous voyez la différence. Hein. Une chose est absurde quand il y a une contradiction dans ce qu'on nous demande de croire. Ce n'est pas du tout le cas des mystères. Il n'y a aucune contradiction. L'intelligence y trouve toujours ses droits. Elle ne peut pas aller jusqu'au bout, elle s'arrête en chemin, elle ne voit pas ce qu'il y a au-delà, mais ce qu'elle voit, elle le voit dans la logique de l'intelligence. Pas du tout pareil. Voilà, donc écartons, un, du mystère, tout ce qui n'est pas certain, écartons du mystère, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est contradictoire ou absurde. Troisième point, mais qu'on ne peut pas le comprendre. J'ai mis comprendre en italique parce que le mot comprendre en français a perdu de son sens. Comprendre, ça vient du latin comprehendere, c'est-à-dire saisir une chose dans son ensemble. Complètement. C'est-à-dire épuiser la richesse intelligible d'une chose. Bon, bah c'est ce que vous faites quotidiennement. Quand vous parlez d'une brosse à dents, vous savez ce que c'est, hein, un petit manche avec trois poils avec lesquels on se brosse les dents. Bon, bah vous savez, comme la richesse intelligible d'une brosse à dents est quand même extrêmement réduite, on peut dire que vous épuisez la richesse intelligible d'une brosse à dents, qui ne va pas très loin, j'en conviens. Mais vous savez tout sur une brosse à dents. Il n'y a pas de mystère dans une brosse à dents. Vous avez épuisé la richesse. Il y a une petite richesse intelligible, une brosse à dents. Quand je vous dis une brosse à dents, c'est pas rien. Bon. Mais vous avez épuisé la richesse intelligible de la brosse à dents. Voilà. Déjà, vous voyez, les ordinateurs, on commence à plus tellement épuiser. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais enfin, c'est le mien en tout cas. Moi, je n'épuise pas la richesse intelligible de l'ordinateur. Il recèle beaucoup de choses que je ne comprends pas. Bon. Alors, comprendere, c'est saisir intellectuellement une chose, l'appréhender, la saisir, dans toute sa richesse, dans toute son étendue. Eh bien, c'est précisément ce qu'on ne peut pas faire avec les mystères. On ne peut pas les comprendre, au sens technique. Mais tout ce qu'on sait, on le sait en toute vérité. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas d'absurdité. Qu'il faut, alors, quatrième et dernier point, qui est quand même très important, il faut cependant essayer d'en saisir le plus possible. On pourrait se dire, après tout, la foi du charbonnier, moi je crois, je comprends rien, je dis pas que c'est absurde, comme Luther, je vais pas jusque-là, je comprends rien, et moins j'en sais, mieux je me porte. On avait des chrétiens comme ça, hein. Moins maintenant, parce qu'on est dans une époque extrêmement scientifique où on veut toujours mettre notre nez un peu partout. Bon, mais autrefois, il y avait ce qu'on appelait les gens qui avaient la foi du charbonnier. Il y a trois personnes en Dieu. Bon, ils n'avaient jamais essayé de réfléchir comment ça pouvait marcher. Or, c'est toute l'œuvre du catéchisme et surtout de la théologie. La théologie est définie par saint Anselme, hein, fides querens intellectum. C'est la foi qui cherche l'intelligence. L'intelligence de quoi? Ben de ce qu'elle croit. Alors, ça, c'est la bonne attitude. Et il ne faut pas se dire, eh ben, écoutez, comme c'est des mystères, j'y arriverai jamais, c'est incompréhensible. C'est vrai que c'est incompréhensible, les mystères. Mais vous allez voir qu'on peut avancer quand même dans les mystères, puisque tout ce qu'on tient intellectuellement est certain et vrai. Il y aura toujours un au-delà. Un au-delà, d'ailleurs, qui grandit avec ce qu'on sait, c'est-à-dire que plus on en sait, plus on sait qu'on n'en sait pas. Bon, ben ça, tous les mystiques l'ont dit sur Dieu. Plus ils en savent, plus sur Dieu, et plus ils sont déçus. Hein. Ils sont déçus en ce sens que ce qu'ils savent, un peu plus, leur montre un peu plus l'étendue de ce qu'ils ne savent pas. Et comme cette étendue, elle est infinie, bah, ils s'aperçoivent qu'ils en savent de moins en moins. Voilà la vérité. Voilà pourquoi, je vous l'ai déjà dit, je crois, ils appellent Dieu la grande ténèbre. C'est quelque chose qui est au-delà, 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 toujours au-delà. Voilà, donc il faut quand même chercher. Il faut chercher, c'est la théologie, il faut chercher l'intelligence des mystères. Car il y a beaucoup d'intelligence dans les mystères. Il y a une intelligence qui est très grande. Et ce qui nous amène au paragraphe 2, pourquoi il y a des mystères ? Pourquoi il y a des mystères ? Ben, on pourrait répondre tout simplement parce que notre intelligence, c'est ce qu'on a déjà fait, elle est trop limitée, elle ne peut pas saisir ce qui est infini. Ben, c'est précisément ça. Seulement, il faut voir qu'il n'y a du mystère que pour un seul motif, c'est parce qu'il y a Dieu derrière tous les mystères. Il n'y a qu'un mystère, en définitive, c'est celui de Dieu. Il y a des mystères dans la vérité divine parce que Dieu est le grand mystère. Il n'y a pas d'autre mystère que Dieu. Il n'y a d'ailleurs de mystère que parce que Dieu est là, dans son infinie richesse. Hein. Je cite Saint Paul, Dieu habite une lumière inaccessible. C'est tout. Là où il y a du mystère, il y a Dieu. On me dirait, mais il y a des mystères qui ne sont pas directement Dieu. Mais si, il y a toujours Dieu. C'est comme une équation où l'X serait Dieu. Vous avez tous fait des équations quand vous étiez en 4e, 5e, peut-être pas 6e, enfin au moins seconde terminale. Bon. Voilà, une équation, ben c'est une égalité où il y a des inconnus, puis on essaye de trouver les inconnus. Bon, puis quand c'est au carré, au cube, ça devient difficile, et des racines de je sais pas quoi. Bref, tout ça, c'est des équations. Eh bien, un mystère, c'est une grande équation, et l'inconnu, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre inconnu que Dieu, d'ailleurs. Il n'y a qu'une seule inconnue. C'est Dieu qui est mystérieux. Et donc, un mystère, c'est une vérité où Dieu entre en composition quelque part. Et c'est lui qui fait qu'il y a du mystère. Parce qu'il n'y a qu'un mystère, il n'y a qu'une chose qui dépasse vraiment notre intelligence, à la limite on pourrait comprendre tout le reste, c'est l'infinité de Dieu, le fait que Dieu est un être dont l'essence est d'exister. Ça c'est très très mystérieux pour nous, puis ça le restera toujours. De sorte qu'on peut même affirmer qu'une religion qui n'aurait pas de mystère, elle est fausse. Or c'est le cas de toutes les religions. Les autres, elles n'ont pas de mystère. Enfin, il y a les mystères d'Éleusis et Bataclan, mais ça, c'est pas des mystères. C'est dans la pratique, c'est pas dans la vérité. Bon. Regardez, l'islam, le Coran, ne recèle pas de mystère. Bon, il y a Dieu, le Dieu très clément et miséricordieux. Bon, on sait qu'il existe. Il est d'ailleurs pas mal tordu. Bon. Et puis, on parle plus de Dieu. Ça n'est plus que la charia, etc. Il y a pas, où sont les mystères ? Il n'y a pas de mystère. Parce qu'il n'y a pas de théologie, parce qu'il n'y a pas d'études sur Dieu, tout simplement. Bon, je ne parle pas des religions extrême-orientales, parce qu'elles sont panthéistes. Alors, il n'y a plus de mystère. Les religions, j'allais dire, le fait que nous disions que Dieu est mystérieux et qu'il y a des mystères est une garantie de la religion catholique, de toute évidence. Quelqu'un qui vous dirait, mais Dieu, mais il n'y a aucun mystère, Dieu, je ne vois pas, moi, où est-ce que vous voyez du mystère ? C'est tout simple. C'est vrai que c'est tout simple. C'est vrai que c'est tout lumineux. C'est vrai que ce n'est pas contradictoire. C'est vrai. Mais c'est Dieu. Donc c'est infini et c'est incompréhensible au sens technique du mot tel que je l'ai défini tout à l'heure. Alors, le mystère, ben vous allez voir, il y a toujours Dieu. Et c'est pourquoi, paragraphe 3, il y aura d'autres mystères, puisque Dieu... Alors, les mystères les plus connus, bien c'est la Trinité. Pourquoi le mystère de la Trinité est-il un mystère ? Pas tellement du côté de la Trinité des personnes, mais du côté de l'essence de Dieu. Et vous verrez tout à l'heure, puisqu'on va parler du mystère de la Trinité, c'est à cause de la nature divine qu'il y a un mystère pour nous, dans la Trinité des personnes. Mais c'est à cause de la nature divine, et non pas l'inverse. Ce qui est mystérieux en Dieu, c'est pas qu'il y ait trois personnes. Parce que ça, vous allez le voir, on pourrait presque le démontrer. Presque. À cause de... Tout esprit a une intelligence, et une intelligence produit un verbe, on y reviendra tout à l'heure, etc. Et à tout esprit suit un amour. Voilà. Mais c'est justement cette essence divine qui fait qu'il y a des mystères. Le mystère de l'incarnation, ben, c'est le Fils de Dieu fait homme... Que Jésus-Christ soit un homme, il n'y a rien de mystérieux. Hein. Alors là, franchement, il est né de la Vierge Marie, il y a 2000 ans de cela, où il n'y a pas de mystère. Mais là où est le mystère, c'est que cet homme Jésus-Christ, si je puis dire, eh ben, subsiste dans la personne du Verbe de Dieu. Alors ça, c'est très mystérieux. Bon. Donc c'est encore à cause de Dieu qu'il y a du mystère. La rédemption, ben, Jésus-Christ est mort, voilà, il y a 1900 et quelques années, sur une croix. Bon, ben ça c'est pas mystérieux, voilà. Mais que cette mort de Jésus-Christ, parce qu'il est le Fils de Dieu, rachète tout le genre humain, c'est parce que Jésus-Christ est Dieu, évidemment, que le mystère de la rédemption existe. Et c'est donc encore à cause de Dieu qu'il y a du mystère. C'est l'infinité de Dieu qui rend mystérieuses ces vérités qui sont pourtant très, très claires. On a vu que Dieu était très simple, vous vous souvenez. C'est un des attributs de Dieu. Aucune composition en Dieu, c'est l'être le plus simple, le plus lumineux qui soit. J'allais dire, mais je vous l'ai déjà dit, pour nous, une chose est compliquée parce que on rajoute les choses les unes aux autres. Voilà. C'est ça qui fait la complication. Il n'y a rien de rajouté en Dieu. Il est, j'allais dire, il est brut de fonderie. Vous comprenez ? Il est tout simple. Pardon ? Dieu est tout simple en ce sens que, pour nous, ce qui complique les choses, c'est qu'on rajoute. Vous voyez, on rajoute des éléments intelligibles les uns aux autres. Un peu comme des cubes, là. Alors évidemment, ça complique. Ça complique. Regardez, dans toutes nos définitions, on fait déjà deux on colle deux réalités intellectuelles. Quand on a vu quand on a cherché une bonne définition de Dieu, vous vous souvenez ? Bon. Ben, une mobylette, c'est un vélo avec un moteur. Bon, ben déjà, vous voyez, on colle deux choses. On colle deux choses. Et ben, ça devient déjà compliqué. Dieu, on colle rien en Dieu. Il y a une seule richesse intelligible en Dieu, infinie. Donc, il est tout simple, tout lumineux. Il n'y a aucune obscurité. Saint Paul le dit, hein. Il dit bien qu'il habite une lumière inaccessible, mais il dit également que Dieu est tout lumineux. Tout lumineux, tout simple et tout lumineux. Je n'ai pas le texte exact. Voilà, donc il y a d'autres mystères que ces trois principaux. Là encore, on croit que, d'après le catéchisme pour les enfants, ben, il y a trois mystères et on tourne la page et puis c'est fini. Tout le reste, non, partout où il y a Dieu, il y a un mystère. Regardez, on va donner quelques exemples. La grâce de Dieu est un mystère. La grâce, nous verrons au deuxième trimestre, c'est une participation à l'essence divine, directe. Voilà. Alors évidemment, si Dieu est mystérieux, la participation à l'essence divine est très mystérieuse. Voilà. Donc la grâce est un mystère. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit notre Seigneur, hein, Jean 15, 6. Or, nous restons libres quand nous agissons par la grâce de Dieu. On ne va pas commencer à parler de tout ça, parce que je cite simplement ça pour vous montrer qu'il y a un grand mystère, parce qu'il y a Dieu qui entre en composition. Voilà. L'enfer, par exemple, c'est un mystère. Les gens ne peuvent pas comprendre l'enfer. C'est incompréhensible, l'enfer. Que pour une période de péché qui a duré X années, etc., on soit jeté dans le au feu éternel pour l'éternité, c'est incompréhensible. Et les gens ne le comprennent pas. Eh bien, d'où vient qu'ils ne peuvent pas comprendre ça, hein? Pas seulement parce que ça leur déplaît, c'est pas seulement ça. Il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas voir deux choses. Que d'abord l'enfer est... Mais c'est pas le plus important. Puis l'enfer, c'est la privation de Dieu. Ben, le feu éternel, ils comprennent, parce que c'est... Bon. Saint Augustin remerciait Dieu d'avoir mis du feu en enfer pour qu'on comprenne ce que c'est que l'enfer. Vous vous souvenez de ça, bon. Mais c'est pas ça, l'enfer. Bon. C'est la privation de Dieu. Donc l'enfer est déjà un mystère, parce qu'être privé de Dieu, ça suppose que vous connaissiez Dieu, on peut être affecté d'une privation que si on connaît la chose. Donc on ne peut pas comprendre l'enfer. Mais surtout, l'enfer c'est quoi ? Ben, c'est le châtiment du refus de Dieu. Vous comprenez ? Alors comme on ne voit pas Dieu dans son infinité, sa sainteté et sa transcendance, ben, on ne voit pas ce que refuser Dieu, le péché, peut comporter également d'infini. Si on ne voit pas que la faute a quelque chose d'infini, on ne voit pas comment le châtiment serait infini. Vous comprenez ? Alors tout ça devient très mystérieux. Et pourquoi ? Ben encore une fois, parce que Dieu est mystérieux, tout simplement. Voilà. Alors nous abordons, maintenant qu'on a bien... on a essayé de circonscrire le mystère. Abordons le mystère de la Sainte Trinité, le premier. Et puis les deux autres mystères, on les verra. Le mystère de l'incarnation, mais après l'homme et le péché originel, puisqu'il vient réparer cela. Il n'y a qu'un mystère qu'on ne voit pas. Il faudrait faire une leçon un jour, parce que les catéchismes n'ont qu'une ligne sur la rédemption. Et moi, j'ai même pas de leçon sur la rédemption. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est dommage. C'est dommage. Je renvoie pour ça au père Hugon, là, qui a fait un très bon livre sur le mystère de la rédemption. Très intéressant. Et c'est dommage que les catéchismes catholiques, dans leur ensemble, escamotent, enfin, passent très très vite. Le mien très très vite, puisqu'il n'y a rien. C'est une catastrophe. Mais ils passent beaucoup trop vite sur le mystère de la rédemption. Parce qu'il y a, une foule de choses à dire et qui ne se trouvent pratiquement dans les autres catéchismes. C'est dommage. C'est dommage, c'est pourtant un des trois grands mystères. Enfin, on traitera les... Quand j'ai fait ce catéchisme pour les adultes, ben, je l'ai fait à partir du plan de catéchisme pour enfants. Même s'il y a d'autres choses. Et effectivement, il n'y a pas de leçon pratiquement sur la rédemption. Il y a une ou deux lignes dans les catéchismes pour enfants. Vous avez remarqué ça, hein. Et c'est dommage. C'est dommage. Ben, c'est vrai que... Enfin, il y a une raison que je donne, je ne sais pas où, mais enfin, on peut la dire ici, c'est que... Les mystères ont été creusés par l'Église à raison même des adversaires et des hérétiques qui les ont attaqués. Or, il se trouve que le mystère de la rédemption n'a jamais été attaqué pratiquement par aucun hérétique, alors que celui de la Trinité et plus encore celui de l'Incarnation ont été attaqués mais par des centaines d'hérétiques, et en particulier du 4e siècle au 8e siècle. Hein, ça n'arrête pas les hérésies sur l'incarnation, ça n'arrête pas. Donc l'Église passe son temps à préciser les choses, à condamner les hérétiques, et vous savez que le dogme de l'Église, ça croit dans la condamnation. Quand tout va bien, l'Église ne définit rien. Elle laisse les chrétiens jouir d'une bonne paix dans la foi, et tout va bien. Et quand il y a les hérétiques, alors l'Église réunit ses conciles, sort ses canons, et c'est comme ça que le dogme avance. Alors c'est peut-être une des raisons pour lesquels le mystère de la rédemption n'ayant été attaqué de front en tant que tel par aucun hérétique, il n'a pas fait l'objet de définition, de précision du magistère de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il est moins certain, hein. Bon, ce n'est pas du tout la question, mais il est moins développé. Mais à l'heure actuelle, ça ne veut plus rien dire, si vous voulez. À partir du moment où vous ne croyez pas dans la Trinité, vous ne croyez plus dans le surnaturel, vous ne croyez pas dans l'incarnation, qu'est-ce que vous allez vous occuper de la rédemption ? C'est quand même un mystère qui est au terme, j'allais dire, de toute l'œuvre du salut, la rédemption. Donc ça veut rien dire. On n'attaque pas la rédemption d'entrée de jeu. Prenez un type qui n'a pas la foi dans la rue, allez lui dire qu'il est sauvé par le sang de Jésus-Christ versé sur la croix. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui ? Jésus-Christ, il ne sait même pas s'il a existé, encore moins s'il est fils de Dieu. Qui est-il ? Est-ce qu'il y a trois personnes en Dieu ? Est-ce que Dieu existe ? On risque pas d'attaquer, dans ces conditions, on ne risque pas d'attaquer les mystères. Voilà. Alors, oui.
Dans l'Église moderne, on prétend quand même que par la rédemption, Jésus a sauvé tous les hommes, donc tout le monde est sauvé. Donc c'est le ciel automatiquement. Quand vous voyez les sermons d'enterrement, par exemple,
on ira tous en paradis.
Il n'y a jamais d'allusion qu'on doit prier pour le mort.
Voilà. C'est tout ça. Ceci est parfaitement exact. Il y a une Il y a une déformation radicale du mystère de la rédemption, de la nature même de la rédemption. Je préciserai, et elle est nouvelle, d'abord elle est faite par des curés, des évêques, hein, le Concile Vatican II, il y a une très grave déformation de la rédemption, c'est évident. C'est évident. Mais elle est consécutive, et c'est comme ça que je réponds, elle est consécutive à une grave erreur sur l'incarnation. De toute évidence. D'ailleurs, dans Vatican II, ça se voit très bien, puisque c'est la fameuse phrase, par le mystère de l'incarnation, Jésus-Christ s'est uni en quelque sorte à tout homme. Donc l'erreur, là, vous voyez, elle n'est pas au niveau de la rédemption, elle est au niveau de l'incarnation. Si vous admettez que l'incarnation qui nous sauve, effectivement, que vous faites voler en éclats la rédemption. Mais voyez, c'est encore une erreur sur l'incarnation. D'ailleurs, ces deux mystères sont liés. S'il y a une rédemption, le moyen de la rédemption, c'est d'abord le mystère de l'incarnation. Le moyen, hein, pas la réalité. Si Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, on ne voit pas comment sa mort sur la croix nous rachète. Hein. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Des crucifiés, il y en a eu des milliers et des millions. Hein. Bon, alors on ne s'attache pas aux autres, on s'attache à celui-là. Et pourquoi on s'attache à celui-là, hein ? Parce qu'il est le Fils de Dieu. C'est tout. Donc vous voyez, alors c'est vrai qu'il y a des graves erreurs maintenant, mais c'est assez nouveau, hein, c'est assez nouveau, sur la nature même de la rédemption. Mais ça, c'est inventé par les curés. Et j'allais dire, ben, en attendant que... C'est vrai que, alors il faudra, peut-être, un jour que le magistère, en condamnant certaines thèses de Vatican II, car il faudra y venir là, c'est certain, eh bien nous réexpose très exactement en quoi consiste la rédemption, parce qu'elle a été dénaturée. Mais encore une fois, elle a été dénaturée à cause d'une corruption du mystère de l'incarnation. Hein. Voilà. Donc, revenons à la Trinité. Remarque préliminaire, deux définitions, trois, l'affirmation de ce dogme, et quatrièmement, ce qu'on appelle, alors là c'est un petit peu de théologie, les appropriations, mais c'est très intéressant parce que ça permet de bien lire la Sainte Écriture. Le mot Trinité veut dire trois en un, tout simplement. C'est trois, un, trois unités. Trois unités. Ce qui saute à l'esprit, c'est que ce mot ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Vous pouvez le chercher et vous ne le trouverez pas. Il n'y a pas une seule fois le mot Trinité dans le Nouveau Testament. Peu importe. Comme d'ailleurs, il n'y a pas le mot incarnation. J'y trouve pas. Il n'y a pas le mot transsubstantiation. C'est tous des termes inventés par l'Église pour précisément coller à la réalité de l'Évangile. Donc le mot ne s'y trouve pas, ça nous est complètement égal, pourvu que la réalité s'y trouve. Et c'est ça qui importe. Ce mystère a été révélé par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et fut absolument inconnu des gens de l'Ancien Testament. Même si on trouve des indices de ces trois personnes en Dieu. Je vous en ai mis quelques-uns qui sont les plus connus, il y en a d'autres. Hein. Voilà, le premier c'est Genèse 1, 26, un texte très connu. Dieu parle au pluriel. Et attention, en hébreu, où ce texte a été écrit, sous la plume de Moïse et sous la dictée du Saint-Esprit, le pluriel de politesse n'existe absolument pas. Donc, comme chez nous. Nous, les papes parlent à la première personne du pluriel. Hein. Nous décidons, nous décrétons, nous accordons l'indulgence plénière, etc. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire « je ». Bon. Or, dans les langues orientales, ce pluriel de politesse, de majesté même, on pourrait dire, hein, n'existe absolument pas. Donc, on voit Dieu parler au pluriel. On voit Dieu parler au pluriel. Ça ne suffit pas pour dire que Dieu est trois, je suis d'accord. Mais les anciens ne pouvaient absolument pas comprendre ce pluriel. Ils ne pouvaient pas le comprendre. C'est absolument incompréhensible. Voilà. Abraham, il voit trois anges, nous dit la Sainte Écriture, il en adore un seul. Bon, on dirait que c'est quand même un indice encore assez infime. D'accord. D'accord. Mais, voilà, c'est trois anges, c'est des anges, attention, c'est pas Dieu, mais c'est des envoyés de Dieu. Hein, et pourquoi il en voit trois et il en a alors un seul. Bon. La fameuse scène d'Isaïe, les anges proclament Dieu et ils le proclament Trine. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Voilà. Alors on pourrait encore interpréter ce texte dans le sens. Dieu est trois fois saint, parce que trois c'est le chiffre de la perfection, et Dieu est tellement saint dans son unité qu'il est sanctus, sanctus, sanctus. Il n'y a pas de preuve c'est des indices. Vous en avez beaucoup d'autres. On peut aller plus loin, regardez le psaume 109 que notre Seigneur utilise. On voit bien qu'il y a au moins deux personnes en Dieu, d'après le psaume 109. Hein. Dixit dominus dominum eo, cede alexis meis, denec pona minimicos tuos, scabellum pedum tuorum. Vous connaissez ça par cœur. Bon, évidemment. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Seigneur, c'est évidemment Dieu dans l'Ancien Testament. Et un Seigneur qui parle à un Seigneur. Voilà. Et notre Seigneur dans l'Évangile utilise ce texte, vous souvenez, pour confondre les Juifs. Hein. Mais comment donc alors David l'appelle-t-il son fils? Comment donc, puisqu'il est le fils de David, pardon, David l'appelle-t-il son Seigneur? Or, c'est bien David qui parle, et il parle. Or, le Messie, c'est son fils, puisque Dieu lui a promis, par le prophète Nathan, que ce Messie sortirait de ses entrailles, après bien des générations sans doute, mais enfin, il en serait la gueule. Et donc, il s'adresse à son fils avec les termes par lesquels on s'adresse à Dieu. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Les Juifs, ils ne pouvaient rien comprendre à ce texte. Ils ne pouvaient rien comprendre à ce texte. Ils n'avaient qu'à le répéter parce qu'il était comme ça. Ils ne pouvaient rien comprendre. Il y a deux seigneurs tout d'un coup. Bon, on va commencer. Bon, puis des textes comme ça, on pourrait en citer des centaines. Hein. Michée, que je cite assez souvent, Michée 5. Michée 5 est très connu parce que c'est le texte par lequel les pharisiens, lorsque les rois mages viennent demander à Hérode où doit naître le Messie, hein, c'est le texte par lequel répondent les pharisiens qui connaissaient très bien l'écriture, très très bien, soit dit en passant. Voilà. Alors où va naître le Messie, ah, eh ben c'est tout simple. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la plus petite des bourgades de Juda, car c'est de toi que sortira celui qui régira mon peuple Israël. Très bien. Ce texte, il est cité, puis l'évangile s'arrête là. Mais si vous regardez la suite du texte, il précise, et dont les... Dont l'origine, ce chef qui doit naître, hein, dont l'origine est dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Voilà, bon, alors un texte qui vous dit très clairement que ce Messie qui va naître, Bethléem de Juda, eh bien, son origine, il est dès les temps anciens, bon, ça c'est encore interprétable, il n'est pas né, je vous signale, hein, donc son origine, elle est dès les temps anciens, c'est déjà, bon. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'il est dès les jours de l'éternité. Le Messie, il est déjà, quand l'éternité est, avant la création, il est déjà là. Bon, vous voyez que ce Messie est quand même assez... tous les textes que ne pouvaient pas comprendre les anciens. Vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Donc, des indices de la Trinité à foison dans l'Ancien Testament. Mais aucune preuve, aucune affirmation de cela. On dirait que Dieu a semé ça dans la Sainte Écriture, un peu comme le sel dans un aliment, vous ne le voyez pas, hein, ça conditionne le tout, mais vous mangez le reste, mais vous ne mangez pas, enfin si vous mangez le sel, oui, mais enfin vous ne comprenez pas pourquoi ça a cette saveur. Voilà. Alors, définition. Eh bien, il y a deux choses en Dieu. Il y a d'abord la nature, ou essence, ou substance de Dieu, unique, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la nature, hein? L'essence, d'abord, est ce qu'un être est. Voilà. En Dieu, nous avons vu que cette réalité est unique et qu'elle est d'exister. Je n'y reviens pas. Mais il faut bien comprendre ce que c'est que l'essence d'un être, hein? La nature des hommes, nous sommes des hommes et c'est notre nature. Un chien est un chien, c'est sa nature. Une voiture, une voiture. Hein? Nous savons qu'en Dieu, cette nature unique est d'exister. Voilà. Alors ça, il n'est pas question de toucher à ça. Hein. Il n'est pas question de toucher à ça. Dès qu'on toucherait à cela, l'unicité de la nature divine, eh bien, on est polythéiste. Si on est monothéiste, et nous le sommes, c'est parce qu'il n'y a qu'une nature en Dieu, et commencer à diviser la nature, hein, comme dit le symbole de Saint Athanase, hein, ben ça, c'était immédiatement hérétique. Il n'y a qu'une nature divine, immuable. Voilà. Alors évidemment, il va falloir essayer d'expliquer comment il y a trois personnes. Mais alors, disons un mot sur la personne d'abord. Qu'est-ce que c'est que la personne? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est la notion théologique et philosophique d'ailleurs, certainement la plus difficile. Ce qui saute aux yeux pour tout un chacun, dans la vie courante, c'est que la personne est un sujet d'attribution. C'est le sujet d'attribution. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose, la personne, c'est quoi? En lui, c'est ce à qui vous attribuez cette chose qu'il a faite. Prenons l'exemple, ce sera plus simple. Pierre joue dans la cour avec son ballon, il casse un carreau en envoyant son ballon, malgré l'interdiction de sa mère, de jouer au ballon dans la cour, etc. Bon, eh bien, on dit c'est Pierre qui a cassé le carreau. Voilà. Et puis, il est coupable, Pierre, parce qu'il ne devait pas jouer dans la cour avec son ballon. Et sa maman va lui faire savoir. Le voisin aussi, parce qu'il a peut-être demandé qu'on rembourse le carreau, puis les assureurs, etc., etc. Hein? Mais c'est Pierre, voyez, on s'attaque à Pierre. On ne s'attaque pas à la nature humaine de Pierre. Vous voyez la maman qui appelle Pierre et qui va le gronder, hein? Mais qu'a fait ta nature? Bon, elle dit, non, Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais interdit de jouer. Vous voyez, Pierre, c'est un sujet d'attribution. Si nous avons des cartes d'identité, c'est parce que nous sommes des personnes. Vous voyez, la carte d'identité, c'est vraiment la pièce qui exprime que nous soyons des personnes. Hein? Pas la nature, imaginez. Si nos pièces d'identité renvoyaient à nos natures, ce serait le grand bazar dans nos sociétés. On aurait tous la même carte d'identité. Voilà. Dans cette salle, chacun a sa personne à lui, mais on a exactement tous la même nature. Mais alors, personne ne peut dire qu'il a plus la nature humaine qu'un autre. Hein. Même si on est Kudjat, on a la nature humaine intégralement. Voilà. Nature humaine, c'est le composé corps et âme rationnel que nous avons, et ça nous avons. Il n'y en a pas un qui peut dire qu'il a plus ça que l'autre. Donc vous voyez, il y a quelque chose chez nous qui fait que nous sommes... nous avons un je, il y a un moi auquel on attribue tout ce que nous faisons. Alors, essayons de préciser, hein, la grande et bonne définition de la philosophie, c'est celle de Boès. Boès, philosophe chrétien, je ne me risque pas à vous donner le siècle, il faudra le retrouver. Oh non, bien avant. Non. C'est certainement pas le 14e, puisque saint Thomas utilise sans arrêt cette définition, et lui il écrit au 12e. Non, Boès, c'est très ancien. Boès, je préfère pas donner le siècle. Bref, voilà. Alors, définition de la personne. Alors, on va l'utiliser énormément pour l'homme. Puis en Dieu, faudra changer les choses. Parce que vous allez voir qu'il y a des éléments de cette définition de la personne de Boès qui ne sont absolument pas applicables à Dieu. Que dit Boès? Il dit qu'une personne, c'est une substance individuée. C'est la personne humaine qui est ainsi définie. Hein. Substance individuée de nature raisonnable. Voilà, on peut apprendre cette définition, ça fait très bien dans un salon, hein, quand vous définissez la personne. Oh, mais enfin, comme Boès a dit, vous comprenez, la personne est une substance individuée de nature raisonnable. Alors là, en général, le gars va commencer à vous respecter, hein, même si vous avez pris pour un ego quand vous rentriez dans le salon. Voilà, il faut d'abord une substance, c'est-à-dire quelque chose qui subsiste par lui-même, par rapport aux accidents qui subsistent dans un autre. Tout simple, c'est tout ce que dit substance. C'est une essence, une substance, en tant qu'elle a en elle-même cette starée-là. Elle se tient en elle-même. Elle a une existence par elle-même. La substance est le seul prédicament qui subsiste en lui-même. Prédicament, c'est les 10 catégories d'Aristote. Voilà, la relation ne subsiste pas en elle-même. La qualité ne subsiste pas en elle-même. Il n'y a pas de qualité qui se balade. Il n'y a que les substances qui se baladent. Et tous les autres accidents. La quantité ne subsiste pas par elle-même. Un tout seul, c'est quoi? C'est rien. Hein. Une substance. Il faut quelque chose qui subsiste de lui-même. Voilà. Individué, ça vaut pour les hommes. Vous comprenez qu'il faut quand même distinguer un homme de l'autre avant de voir ce que c'est qu'une substance. Il faut distinguer un homme de l'autre. Or, qu'est-ce qui nous distingue les uns des autres? C'est pas la nature. Donc, ce n'est pas la substance. Vous êtes d'accord? On a tous la même nature ici, dans cette salle. On a donc tous la même substance. Vous êtes d'accord? Or, on est chacun à part. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'individuation. Voilà. Or, quel est le principe d'individuation chez l'homme? Qu'est-ce qui fait que l'un est fondamentalement n'est pas l'autre? Oui, mais c'est bien répondu. C'est des accidents qui nous distinguent les uns des autres, qui nous individualisent. Mais quel est l'accident qui nous individualise? C'est pas un accident d'ailleurs, c'est un principe d'être. Mais c'est notre corps, c'est la matière qui nous individualise. On a tous la même définition. On est d'accord? Quel est celui qui est plus homme que les autres, là, ici? Personne. Bon. Absolument personne. Point de vue de la substance, de la définition. Hein, hommes et femmes, c'est pareil. D'ailleurs, il y a une différence matérielle, fondamentalement, entre hommes et femmes. Avant qu'il y ait... Bon. Donc, on a absolument tous la même substance. On a tous la même substance. Or, l'un n'est pas l'autre. Monsieur un tel n'est pas madame chose. Alors, qu'est-ce qui individualise, qui fait que monsieur est un individu et que madame est un individu? Eh bien, c'est la matière de monsieur et qui n'est pas celle, la matière de madame. Mais la substance est la même, vous ne sauriez pas distinguer deux hommes par leur substance. Impossible. Voilà, c'est la matière. Alors, comme dit... c'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure, c'est un accident. Saint Thomas précise, c'est la matière signée par la quantité. Alors là, bon...
Voilà. En la quantité, là, c'est un accident. Pas la matière, pas l'accident. C'est la matière. Mais la matière, vous savez, la matière qui n'est pas formée, elle n'individualisera pas. Bref, voilà pourquoi on précise qu'il y a une certaine quantité. C'est-à-dire que votre matière, elle s'arrête à la quantité de matière que vous avez. Et c'est ça qui distingue un homme d'un autre. Hein. Non mais c'est quand même incroyable, mais c'est ça qui distingue un homme d'un autre. Pourquoi M. Untel n'est pas M. Bidule ? Parce que M. Untel a sa matière à lui, signée par sa quantité à lui. Mais côté nature, vous ne pouvez pas les distinguer. Oui, il y a une question qui vous démange là. Alors, il faudrait qu'elle sorte.
On n'a quand même pas la même âme. Eh oui.
Mais j'ai pas encore parlé d'âme. Là.
Matière.
Les âmes. Non, non, mais c'est une très bonne question. Il fallait la poser. Heureusement que vous avez succombé à la tentation. Hein. Les âmes, c'est quoi ? L'âme, c'est la forme du corps. D'accord ? Donc, elle fait partie de la substance. Qu'est-ce qui fait qu'une âme humaine... C'est Dieu qui crée les âmes directement. Je vous l'apprends pas. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'une âme est distincte d'une autre âme ? C'est la matière dans laquelle elle tombe, tout simplement. Parce qu'elle est la forme de cette matière. Si vous voulez, dans la création, mais l'âme n'existe pas indépendamment de la matière, jamais. Quand Dieu crée une âme, il la crée pour un corps. Il la crée dans ce corps. Et avant ce corps, eh bien l'âme n'existe pas. Elle n'existe pas. On est bien d'accord ? Alors, ce principe d'être qui s'appelle l'âme, qui est un principe d'être, hein, qui n'est pas un être, c'est un principe d'être l'âme, entièrement fait pour être la forme du corps. Ben, il est la forme du corps. Et qu'est-ce qui distingue une âme d'une autre ? Le corps. C'est fort, ça, hein ? Mais c'est la doctrine d'Aristote et de saint Thomas. Uniquement, oui ?
Après notre mort, oui. L'âme se sépare du corps.
Oui.
Là où, en attendant la résurrection des corps, on se reconnaît quand même.
Oui, alors, mais ça, c'est une question. J'ai étudié un peu cette question, parce que c'est vrai qu'elle elle recèle une très grande difficulté. L'âme étant un principe d'être entièrement fait pour être dans le corps, d'abord, c'est une violence énorme que de ne pas être dans le corps. Mais comment elle s'individualise ? Eh bien, elle s'individualise par la relation qu'elle a eue à ce corps, qui demeure. C'est tout. Et qu'est-ce qui reste d'une âme séparée ? Pratiquement, il reste l'intellect agent. C'est tout ce qui reste. Parce que ça, c'est quelque chose qui transcende infiniment la matière. L'intellect agent. C'est ce que dit saint Thomas. Bon, mais là, ça nous emmène un petit peu loin du mystère de la Sainte Trinité et de la définition de la personne. Mais c'est passionnant. Mais ça fait un peu trop de philo. Enfin, comment est-ce que je veux dire ? L'individuation, c'est par la matière. Et c'est vrai, il y a une individuation des âmes séparées après la mort. Elle n'est pas avec la matière, cette individuation. Absolument pas avec la matière. Elle est de la relation à cette âme du temps de sa matière. Voilà. Et c'est d'ailleurs la même chose qui fait qu'elle reste individuée, qui fait qu'elle retrouvera ce corps. Bah forcément.
Pas de confusion.
Il n'y aura pas de confusion. Monsieur Bidule ne prendra pas le corps de... Madame Chouette, vous comprenez ? Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a une relation. La relation, c'est de l'être. Hein. Attention. Une relation, c'est ténu, oui, oui, mais c'est de l'être, une relation. Eh bien, la relation de l'âme de Monsieur Untel est avec le... Mais d'ailleurs, c'est normal, réfléchissez, puisque l'âme, c'est la forme du corps. Comment voulez-vous que cette âme, récupérant son corps, ben, elle sera exactement l'âme de la... Elle sera la forme du corps qu'elle récupérera. Évidemment, c'est le corps qui se façonnera à la forme qui sera la sienne, c'est-à-dire à l'âme. Voilà. Mais ça reste quand même quelque chose de difficile à comprendre, parce que c'est... que reste-t-il ? Qu'est-ce que c'est qu'une âme séparée ? Ben, il n'y a plus de passion, il n'y a plus rien, etc. Et au point de vue forme du corps, elle n'est plus forme du corps, puisqu'il n'y a plus de corps. Vous comprenez ? Alors c'est facile de définir l'âme, ici-bas. Parce que le corps et l'âme sont unis. Mais après, c'est plus difficile. Et que reste-t-il ? Ben, il reste ce qui vraiment transcende la matière. Et qu'est-ce qui transcende absolument la matière ? Il n'y en a pas 36. Hein ? C'est l'intellect agent.
c'est cette capacité d'abstraire qui vient absolument pas de la matière. C'est tout. C'est cette lumière intellectuelle. C'est cette lumière divine qui est en nous.
Il ne reste pas l'amour de Dieu ? Parce qu'on est fixé, l'âme est fixée en Dieu.
Là, on ne parle pas du côté surnaturel. Là, on parle de la philosophie de la chose. Qu'est-ce qui reste au point de vue ontologique d'une âme humaine après la mort ? Voilà.
Oui, mais quand vous parlez de son intellect agent, donc vous parlez d'une des deux facultés de l'âme.
Oui, et alors... Voilà, mais seulement quand on voit bien ce que c'est que l'amour, l'amour c'est la suite de l'intelligence. Vous comprenez ? C'est le mouvement
c'est
qui
le
nous...
Prolongement.
C'est le prolongement, en inversant le mouvement, si je puis dire, hein, c'est le prolongement de l'intelligence. Bon, on ferme la parenthèse sur les âmes séparées, c'est passionnant, mais il faudrait reprendre tous les textes Saint-Thomas, puis c'est plus tellement du catéchisme. Hein. Bon, voilà, alors revenons à Boès, substance, et vous avez vu qu'elle doit être individuée. Individuée. Et puis, vous comprenez, avec si la personne, c'était simplement une substance individuée, ben les chiens seraient des personnes. Ils ont une substance, et elle est absolument individuée aussi par leur matière. La matière d'un chien n'est pas la matière d'un autre chien, même s'ils sont de même race. Hein. Copie conforme, là, vous voyez, deux dalmatiens, là, ils sont exactement pareils. Ils ont chacun leur substance, ils sont individués, et oui, n'empêche qu'il n'y a pas de personne, ni chez l'un, ni chez l'autre. Vous voyez qu'il faut absolument que cette substance individuée soit dans la nature raisonnable. Et là, vous voyez bien comment les mots sont utilisés, parce que la substance et la nature, c'est la même chose. Mais vous parlez de nature parce que vous parlez de son agir raisonnable, et vous parlez de substance parce que vous la distinguez aux accidents. Oui, là, ces trois termes philosophiques ne sont pas repris. Là, bon. Et bien, chez nous, qu'est-ce qui fait qu'on est des personnes ? C'est tout ça. À chaque fois que vous aurez et une substance, et qu'elle est individuée, et dans la nature raisonnable, vous avez une personne. Voilà. Qu'est-ce qu'on va garder de cette définition en Dieu ? Ben, pas grand-chose. on va supprimer complètement le individu. Normal. Qu'est-ce qui est individu ? On l'a dit, c'est la matière. De matière, il n'y en a pas en Dieu, donc on va rayer, voilà. Est-ce que Dieu peut être dit avoir la nature raisonnable ? Oui, si on entend par là simplement que Dieu est esprit, non. Il n'y a pas de discours dans l'intelligence de Dieu, il n'y a pas de discursion, il n'y a pas de raisonnement. Donc Dieu n'a pas, à cet égard, la nature raisonnable. Il n'est pas de nature raisonnable. Voilà. Alors on va garder quoi ? Ben, on va garder une substance, hein ? Une substance par rapport à l'agir. Mais remarquez, c'est pas bête, parce que c'est ça qu'on va essayer de définir. Une substance dans l'agir. Voilà. Substance dans l'agir. Revenons à la personne humaine, avant de passer au mystère proprement dit. Sujet d'attribution, et nous sommes obligés de dire que fondamentalement, en tout homme, ce qui le fait être personne est distinct de la nature. Et alors ça, au moins retenez ça, quoi. Au moins retenez ça. Vous avez 4 milliards d'humains, c'est une seule nature. Et vous avez 4 milliards d'individus. Mais 4 milliards d'individus qui ne sont pas comme des chiens, qui ont chacun leur personne, et auxquels on peut attribuer ceci. On va garder évidemment le fait, en Dieu on va le garder, hein, le fait que la personne est ce à qui on attribue ce qui est fait. Et c'est pour ça que on récompense des hommes et on en met d'autres en prison. Voilà. Bon, les critères peuvent varier et juste ou injuste, mais en principe, chacun est responsable en raison de sa personne. Voilà. Alors venons à Dieu. Mais pourquoi la théologie catholique a énormément creusé cette notion de personne, évidemment, à cause du mystère de la Trinité d'une part et du mystère de l'incarnation d'autre part, mais nous y reviendrons. Hein. Nous affirmons donc, avec tout l'évangile, qu'il y a une seule nature en Dieu. Sinon, on serait polythéiste, je l'ai déjà dit. Et en affirmant qu'il y a plusieurs dieux. Et trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pouvons-nous essayer de comprendre ? Alors, qu'il en soit ainsi, ben, je ne le démontre pas. Parce que d'abord, c'est un cours de catéchisme. Et deux, ça ne se démontre pas. Ça se prend des affirmations de notre Seigneur. Puis c'est tout. Alors vous avez la foi, vous avancez, vous n'avez pas la foi, circulez, il n'y a rien à voir. C'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas de... voilà. On voit bien que notre Seigneur parle sans arrêt de son Père, de lui. Ils sont égaux, ils sont distincts, mais ils sont égaux. Bon, Saint Jean, au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a le Verbe, c'est qui ce Verbe? On ne sait pas au début, hein. Mais ce qu'on sait tout de suite, d'entrée de jeu et en deux lignes, en deux versets, enfin en un verset de la Sainte Écriture, en deux parties, bon, ben on sait que ce Verbe, il était auprès de Dieu, ce qui se suppose qu'il se distingue de Dieu. Et aussitôt, patatras, il est Dieu lui-même, donc il se distingue de Dieu et il est Dieu. Alors, ouais, avant d'expliquer ça, voilà. Mais surtout, toutes les paroles de l'évangile de Saint Jean, le Père et moi, nous sommes un, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alors sans arrêt, ils se distinguent, et sans arrêt, ils sont jamais identiques au niveau, c'est ce qu'on va dire, au niveau personne, ils sont distincts, et puis au niveau nature, ils sont la même réalité au point de vue nature. Voilà ce que nous disons. Donc je ne vais pas citer tout l'évangile, je ne fais pas une démonstration de la Trinité, je fais un exposé de la Trinité en essayant d'en comprendre un peu plus. Mais c'est des centaines et des centaines de textes qu'il faudrait citer ici. Voilà, à commencer par la divinité de Jésus-Christ. Mais voyez que notre Seigneur a prouvé surabondamment qu'il était Dieu, mais on voit bien que par rapport à Dieu, il se distingue de Dieu dans son agir. Il se distingue de Dieu. Voilà. Il parle très souvent comme s'il n'était pas Dieu. Et pourtant, il affirme son unité avec le Père, et continuellement. Alors vous comprenez que c'est tout l'évangile, hein. C'est tout le mystère de l'évangile, il est là. C'est pour ça que les gens qui disent, mais la Trinité, ça ne nous concerne pas trop. Il n'y a pas d'évangile sans Trinité. Il n'y a pas de Trinité sans évangile, mais il n'y a pas d'évangile sans Trinité. Elle est à toutes les lignes. La Trinité est dans l'Évangile. Par la manière de faire de notre Seigneur. Son comportement, j'allais dire, autonome, dans cette identité de nature avec Dieu. Il agit comme Dieu, mais il se distingue de Dieu. En permanence. Donc elle est à toutes les lignes, si je puis dire. Voilà, essayons d'en comprendre un petit peu plus. On l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'avoir la foi du charbonnier en disant, c'est entendu, il y a trois personnes en Dieu, il n'y a qu'une nature, sinon on est hérétique, et puis le reste, ça ne m'intéresse plus. Je fais ma prière le matin, celle du soir, et puis j'attends le ciel pour y voir plus clair. Non, ce n'est pas une bonne attitude, on va essayer d'en voir un petit peu plus. Dieu est une nature intelligente. Or, à toute intelligence, on va représenter Dieu. Écoutez, comment je vais le représenter? Je vais le représenter par un cercle. Pourquoi un cercle? C'est la forme parfaite. Alors, il ne sera pas parfait le mien, parce que... Oui, pas mal. Bon. Voilà, alors ça, on dit que c'est Dieu. Et même, plus précisément, la nature divine. Oui, d'accord. Voilà. Nous savons, ça on l'a démontré déjà, que Dieu est intelligent. C'est une nature spirituelle que Dieu. Donc Dieu va connaître. Dieu n'est pas opaque à lui-même. Dieu est transparent à lui-même. C'est très important ça. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence, c'est une lumière. C'est tout ce que c'est. C'est une lumière. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on disait tout à l'heure que la lumière de l'homme, c'est son intellect. C'est ça la lumière de l'homme. Qu'est-ce qui distingue un homme de tout le reste de la créature? C'est qu'il y a une lumière dans l'homme, intellectuelle, que les autres n'ont pas. Puis c'est tout. Évidemment que Dieu a encore plus de lumière. Alors, que fait une intelligence? Elle connaît. Comment fait une intelligence pour connaître?
C'est très mystérieux, la connaissance. Et pour toute intelligence, hein, celle de Dieu. Voilà, là, je vous dessine un petit bonhomme. Ce bonhomme, il connaît. C'est quoi, connaître? Connaître, c'est faire rentrer dans son intelligence un objet. Voilà, ce petit objet, il va en rentrer là-dedans. Vous me direz, mais comment cet objet peut-il se dédoubler? Il existe dans la réalité, cet objet. Voilà, prenez une belle voiture, allez. D'accord? Je sais pas, j'ai 4 ans, je sais pas encore ce que c'est qu'une voiture, et ma maman ou mon papa me montre pour la première fois une voiture. Voilà. Eh bien, je vais connaître une voiture. C'est-à-dire que cette voiture, elle va venir en quelque sorte en moi. Et pourtant, elle va rester dans la vitrine, hein, la voiture. L'objet voiture va rester dans la vitrine. Eh bien, si je la connais, elle va venir dans mon intelligence. Alors, est-ce que c'est la bagnole qui se dédouble? Non, elle est entièrement matérielle, la voiture, elle ne va pas bouger. Elle va rester dans sa vitrine, ça ne va rien changer, la voiture. Alors, d'où vient? Vous voyez bien qu'il y a un dédoublement dans l'intelligence. D'où vient ce dédoublement? Il vient précisément de la capacité de ce petit bonhomme qui est intelligent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, en regardant cet objet, produire une espèce de cet objet. À partir de cet objet, il va en quelque sorte se dédoubler. Et pour commettre cette voiture, il va s'en faire une représentation intellectuelle. Comment il le peut? À cause de cette lumière intellectuelle qu'il a en lui. C'est très compliqué, la connaissance humaine. Toute connaissance est compliquée. Hein. Voilà, pour connaître une chose, il faut se la dire à soi-même. Il faut se la raconter. Regardez, quand vous connaissez les choses, ben vous les dites à vous-même. Vous vous les dites à vous-même. Pourquoi vous riez? Parce que j'ai parlé des gens qui parlent tout seuls? Non? Voilà. Voilà. Alors là, c'est idiot pour la petite dame qui fait son café en disant « Je prends ma casserole, je la remplis d'eau, tiens, j'allume le gaz, tiens, il n'y a plus d'allumette, etc. etc. » C'est idiot parce qu'elle n'a pas besoin de faire ça. Un, parce qu'elle est toute seule et elle parle à voix haute. Mais deux, surtout, c'est qu'elle n'apprend rien. Elle n'apprend rien. Elle n'apprend pas qu'il faut faire chauffer sa casserole pour faire son café. Elle n'apprend rien. Vous comprenez? Donc, si elle n'apprend rien, c'est pas la peine qu'elle se raconte. C'est là où c'est pas normal. Bon. Mais par exemple, prenez un étudiant là, en maths sup qui fait des mathématiques tout seul. Il ne parle pas. Hein. Il est là avec sa plume, il écrit. Bon, son intelligence travaille. Enfin, c'est à souhaiter. Elle travaille et qu'est-ce qu'il fait? Ben, elle produit sans arrêt un verbe qui lui dit ce qu'il apprend. Il y a un dédoublement dans l'intelligence. Forcément. S'il n'y a pas de dédoublement, comment voulez-vous qu'il y ait quelque chose qui vienne? Voilà. Donc, vous voyez, toute intelligence produit un verbe. Attention, on n'est pas idéaliste. Hein. Lui, il envoie la lumière. Ce qu'il envoie, c'est de la lumière intellectuelle. Sur cette chose, et c'est cette lumière intellectuelle envoyée sur cette chose, hein, par le procédé de l'abstraction, qui fait que c'est toujours cette lumière hein, qui va produire. Mais la formalité de la chose vient évidemment de l'objet. Lui, il envoie de la lumière. C'est comme la lumière. Hein. Quand vous allumez la lumière, vous voyez. Mais vous voyez quoi? Ben, vous voyez les choses telles qu'elles sont. N'empêche que, n'envoyez pas de lumière, éteignez tout, en pleine nuit, ben, vous ne voyez plus rien. Bon. Donc la formalité de l'objet connu hein, vient évidemment de l'objet. Mais ce qui permet de faire un dédoublement de cet objet, c'est la lumière intellectuelle envoyée. Et quand la lumière intellectuelle a frappé en quelque sorte l'objet et revient vers le sujet pour qu'il connaisse, hein, je vous emploie pas les termes philosophiques de saint Thomas, hein, espèce express, espèce impresse, ça nous perturberait ici. Eh bien, cette intelligence a produit un verbe. Un verbe. Qu'est-ce que c'est que le verbe? C'est ce qu'une intelligence se dit à elle-même pour connaître. Et vous faites ça sans arrêt. Sans arrêt. Le matin, on fait attention quand on se réveille. On fait ça le matin. Sinon, on resterait au point mort. On resterait au point mort, au point de vue intellectuel. Hein. Bon. Voilà, vous vous levez. Ah tiens, aujourd'hui c'est mardi. Et alors, parce que vous savez, vous savez pas que c'est mardi, vous vous réveillez. Ah, aujourd'hui c'est mardi. Tiens, c'est la Saint-Glinglin. Bon, tiens, j'ai un rendez-vous à 10h. Qu'est-ce que vous faites là? Vous parlez, enfin j'espère que vous ne parlez pas. Il n'y a personne, hein. Mais vous vous dites à vous-même des choses, ben, pourquoi? Pour les connaître. Pour les connaître. Voilà. Tiens, il pleut. Ben, vous ne saviez pas qu'il pleuvait en vous réveillant. Bon. Ah, ce soir, il y a cours de catéchisme avec la belle Aguirre. Oh, ben, dommage, j'aurais préféré sortir. Bon, etc. Vous vous racontez les choses. Ah, ben, chouette, c'est la Trinité, j'aime beaucoup apprendre des choses. Enfin, vous voyez, vous vous racontez les choses. Voilà. Vous produisez donc un verbe. Un verbe qui est la chose la plus... c'est la caractéristique de l'homme. L'homme, c'est une petite machine très bien faite qui produit un verbe sans arrêt. Voilà. Eh bien, vous comprenez que l'intelligence divine... Revenons à l'intelligence divine, maintenant. Mais ça, c'est pour toute intelligence. Et l'intelligence divine, elle connaît. Elle connaît quoi, l'intelligence divine? Elle connaît elle-même. Voilà, autrement dit, de cette nature divine, il faudrait que je prenne tout ça, hein, puisque c'est toute la nature divine. Elle va se connaître. Première flèche. Voilà, c'est la flèche de la connaissance. Et pour se connaître, eh bien, il faut qu'il y ait un dédoublement en Dieu, comme dans toute connaissance. Réfléchissez. Comment voulez-vous que la nature divine se raconte la nature divine à elle-même, c'est-à-dire à la nature divine? C'est impossible si Dieu est, j'allais dire, monolithique. Regardez, pourquoi les objets ne connaissent pas? Prenez ce bureau. Comment voulez-vous que ce bureau dise à ce bureau ce que c'est que ce bureau? Il faut un dédoublement. Il faut qu'il y ait le bureau qui connaît et le bureau qui est connu. Il faut qu'il y ait le bureau et puis le raconter, le verbe du bureau qui se dit au bureau. Alors vous voyez que c'est pas possible parce qu'il est matériel, ce bureau. Donc il ne peut pas se dédoubler. La matière, c'est singulier. C'est singulier. Voilà. Eh bien, Dieu, évidemment, et toute intelligence, elle a cette capacité, on vient de le voir, de se dédoubler. Autrement dit, Dieu, pour se connaître, comment il fait? Ben, il se raconte lui-même à lui-même. Et ce verbe que Dieu produit pour se dire lui-même à lui-même, eh bien, c'est son Fils. Alors, qu'est-ce que le Fils? Ben, le Fils, enfin, c'est le Verbe. Après, on l'appelle le Fils, hein, parce qu'il est engendré, parce que nous engendrons nos pensées. Voilà. Ben, qu'est-ce que c'est que le Père? Le Père, c'est la nature qui connaît. Autrement dit, c'est Dieu au principe de cette connaissance. Et le Fils, hein, c'est Dieu au terme de cette connaissance. Autrement dit, c'est le Verbe. C'est ce que Dieu dit. C'est la chose dite par Dieu, si je puis dire, hein, par le Père. C'est Dieu raconté par le Père. Voilà ce que c'est que le Fils. Bon, on me dirait, mais ça y est, la belle Aguirre a nettoyé définitivement tout mystère dans la Sainte Trinité. Pas du tout. Parce que ce qui est absolument incompréhensible pour nos intelligences, hein, c'est que justement ce terme de cette action par laquelle Dieu se raconte à lui-même soit une personne distincte du Père. Ça, je ne peux pas vous l'expliquer, ça. Il faudra voir la Trinité pour essayer de le comprendre. Et encore, nous ne le comprendrons pas.
Oui, mais tout à fait. Si ce n'était pas une personne, il y aurait eu de la perte. Entre le moment, enfin, entre le point de départ et le point d'arrivée,
alors, disons, je vais revenir à ma question, je ne la vois pas tout à fait pour l'instant. Disons quand même une chose très intéressante, c'est que notre intelligence, nous, étant limitée, comme toutes les intelligences créées, elle ne raconte pas tout quand elle parle. Nous racontons très peu de choses. Je vous ai pris l'exemple de la brosse à dents tout à l'heure, hein. Ben, on raconte une chose minuscule, on véhicule un capital intellectuel minuscule quand on connaît la brosse à dents. Pourtant, il y a un dédoublement, hein. Quand vous connaissez ce que c'est qu'une brosse à dents, vous êtes obligé de vous dire ce que c'est qu'une brosse à dents à vous-même. Et je vous l'ai dit, moi. C'est un manche avec trois poils et avec lequel on se brosse les dents. Et c'est ça. Ben, je me le suis dit, hein, avant de vous le dire. Bon. Parce que notre intelligence est limitée. Remarquez, elle peut faire mieux qu'avec une brosse à dents. Enfin, bref. L'intelligence de Dieu, elle est infinie. Et elle va dire, elle va raconter une chose qui est infinie. On est bien d'accord que l'intelligence de Dieu, l'objet de l'intelligence de Dieu, c'est l'essence de Dieu. Et rien d'autre. Les autres choses, Dieu les connaît en lui, comme leur cause. Donc il n'a rien besoin, Dieu ne connaît rien d'autre que lui. Voilà. Elle est infinie, donc il n'y a aucune perte en ligne. Aucune perte en ligne. Dieu va dire tout ce qui est Dieu à Dieu. Voilà. Alors revenons à votre question.
Eh bien, le fait que ça ne soit pas une personne, c'était là que je trouvais qu'il y avait de la perte en ligne.
Si le... Non, non. Que le Verbe soit aussi grand que Dieu pour raconter tout Dieu à Dieu, alors évidemment, il le faut, ça. Il faut absolument que le Verbe par lequel Dieu se connaît soit aussi riche, en riche, enfin, capital. Il faut qu'il dise tout Dieu. Donc, il est aussi grand que Dieu. Comment voulez-vous? Mais rien ne dit là-dedans qu'il est une personne. Alors, vous voyez, le Père, c'est la nature divine au principe de la connaissance. Le Fils, c'est la nature divine, très exactement la même, au terme de la connaissance que Dieu a de lui-même. Voilà. Le mystère, c'est que le Père soit une personne et que le j'ai mis le terme, c'est le Fils. Hein. Ou le Verbe. Voilà. Bon, eh bien, on ne peut pas aller plus loin. Enfin, on pourrait préciser quelques notions, mais je n'ai pas démontré que Dieu avait un fils. Pas du tout, du tout, du tout. Mais voyez comme c'est... on avance énormément. On voit bien quelle est la nature de ce fils. Regardez dans la Sainte Écriture, le fils, on le verra dans les appropriations tout à l'heure, il est toujours la lumière de Dieu, toujours. Et ça dans l'Ancien Testament, je n'ai pas cité ça tout à l'heure dans les indices de la Trinité dans l'Ancien Testament, mais on voit bien par exemple que la sagesse de Dieu, tout le livre de la sagesse, le Siracide, ben vous pouvez l'appliquer au Christ directement, à chaque fois qu'il y a la lumière de Dieu, qu'il y a la vérité de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est son Fils. Voilà. Parce que le Fils procède du Père, hein, par voie intellectuelle. Et voilà pourquoi il est appelé le Verbe. Voilà pourquoi d'ailleurs, soit dit en passant, c'est lui qui s'est incarné et non personne d'autre. Bon. Mais encore une fois, je n'ai pas percé le mystère. Le mystère, c'est que ce fils soit une personne distincte de Dieu, un sujet d'appropriation. Ça, je ne peux pas vous dire pourquoi. Vous allez voir. Ouais. Eh bien, nous avons vu qu'à toute connaissance suit un amour. Alors c'est presque le même raisonnement, mais pas tout à fait. Donc il y a deux grandes opérations d'ordre spirituel dans tout esprit, que ce soit l'esprit de Dieu, l'esprit des anges ou les nôtres. Il y a deux grandes opérations. L'intelligence par laquelle, produisant un verbe de la chose connue, je parviens à la connaître. Et également l'amour, c'est-à-dire ce n'est plus mon intelligence qui produit un verbe pour connaître, c'est ma personne qui suit, enfin ma personne, mon être, hein, qui suit à cette connaissance, car pour aimer, il faut un dédoublement, vous le voyez. Comment voulez-vous qu'un être unique s'aime? S'il n'y a pas de dédoublement, il ne peut pas s'aimer. Les êtres matériels qui sont absolument dans leur individualité, comment voulez-vous qu'ils produisent le moindre amour? Impossible. L'amour vient déjà de ce dédoublement. Là où il n'y aura pas ce dédoublement, il n'y aura évidemment pas d'amour. Il y a quelque chose... L'amour, évidemment, et c'est plus direct que l'intelligence, mais ça suppose qu'il y ait ce dédoublement. Alors, le mot dédoublement est pénible dans la Trinité, parce que au terme et à l'arrivée, c'est exactement la même réalité, donc il n'y a pas de dédoublement. Le mystère est là. Mais alors, à partir du moment où le Père se connaît adéquatement en produisant son verbe qui est son fils. Cette nature divine est capable également de s'aimer. Et elle s'aime. Alors ça, c'est l'homme. Elle ne s'aime d'ailleurs que parce qu'elle se connaît. D'abord, on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est impossible. Il faut connaître une chose pour l'aimer. L'aimer, c'est le mouvement qui vous porte vers une chose à raison de sa bonté. Il faut donc connaître la bonté de la chose aimée, sinon vous ne pouvez pas l'aimer. D'ailleurs, c'est comme ça que marche l'amour. Vous connaissez quelque chose et vous voyez de la bonté dans cette chose. Donc, vous vous portez vers la bonté de cette chose. Si Dieu s'aime, c'est parce qu'il se connaît. S'il ne se connaissait pas, il ne pourrait pas s'aimer. Et ça, c'est pareil pour nous, hein. On est incapable d'aimer une chose qu'on ne connaît pas. Voilà.
Est-ce que vous aimez la chimère, là ? Non, vous ne pouvez pas aimer la chimère. Vous savez pas ce que c'est ? C'est un être qui, précisément, n'a pas d'existence. Vous ne la connaissez pas, et donc vous n'aimez pas. C'est tout.
Vous pouvez aimer quelque chose ou quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Alors, l'amour, quand Dieu se connaît, et vous voyez que c'est après, c'est là où les orthodoxes sont impardonnables. On voit bien que c'est du Père et du Fils que procède l'Esprit Saint, qui est précisément la nature de Dieu
comme connu,
comme aimé, pardon. Voilà. Au terme, il y a toujours la nature divine. Mais attention, la nature divine du Père et du Fils. Du Père et du Fils. Pourquoi la nature divine du Père et du Fils ? Ben précisément parce que l'amour suit la connaissance. Voilà. Et voilà pourquoi il n'y a pas quatre personnes en Dieu. Il n'y en a que trois. De cette nature divine commune au Père et au Fils, qui s'aime infiniment, alors on arrive à cette nature divine toujours connue, enfin aimée plutôt. Oh, décidément. Voilà. Alors là, grand mystère, c'est une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Voilà. Alors ça, je ne vous l'explique pas non plus. Hein. Pas plus que je l'ai expliqué pour le Fils, pas plus que je vous l'explique pour l'Esprit Saint. Mais Dieu qui s'aime, hein, se porte tout entier vers cette nature divine qu'il aime. Voilà. Et cette nature divine qui est aimée. Alors si vous voulez, le Père, c'est toujours la nature divine. Hein. Voilà. C'est la nature divine qui connaît. Et puis finalement, en deuxième temps, qui aime aussi. Hein. Attention. Voilà. Le Fils, c'est la nature divine. Très exactement la même.
Hein, bon, je ne peux pas faire coller les choses les unes aux autres, mais il faudrait que je réécrive ça sur un.
Qui est connu. Voilà. Et puis le Saint-Esprit, c'est la nature divine qui est aimée. Voilà. Le grand mystère, c'est que la nature divine, il n'y en a qu'une, et qu'à cause de ces relations dans la Trinité entre la nature divine, eh bien, il y a plusieurs personnes. Et ça, je ne vous l'explique pas. Ce sera l'objet d'une contemplation directe. Comment le Verbe de Dieu est-il une personne distincte du Père ? Voilà. Nous ne produisons pas de personne, hein. Nous produisons des petites représentations, nous connaissons. Alors, est-ce que c'est la puissance infinie de l'intelligence divine qui produit une personne? Sans doute que c'est ça, mais ça, on ne le voit pas, moi je ne le vois pas intellectuellement. C'est l'infinité de la puissance divine qui produit une représentation aussi grande que lui, mais qu'elle soit distincte de Dieu. Au niveau personne, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Voilà, et ça, il faut le croire. Et pour finir, les appropriations. Ça, c'est très, c'est un peu de théologie, mais c'est très intéressant parce que c'est quand même une grille de lecture de la Sainte Écriture. Voilà, toutes les œuvres que Dieu fait à l'extérieur de lui-même, c'est-à-dire toutes, sauf les deux qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'intelligence et l'amour en Dieu, sont communes aux trois personnes divines. Pourquoi ? Pourquoi toutes les œuvres que fait Dieu à l'extérieur de lui-même sont-elles communes aux trois personnes divines ? C'est pas plus le Père qui les fait, pas plus que le Fils, pas plus que l'Esprit Saint, ni moins d'ailleurs. Bon, c'est marqué, oui, mais enfin, sans lire. Parce que toute œuvre extérieure, hein, relève de la nature divine. Alors, chez nous aussi. Ce que vous faites, vous vous souvenez de la définition de la nature ? La nature, c'est là, c'est l'essence en tant qu'elle est principe d'opération. Donc tout ce que fait un être, n'importe quel être, eh bien, il le fait à raison de sa nature. À raison. Sur la causalité de sa nature. Voilà. Je vous ai déjà dit, souvenez-vous, hein, quand vous allez à la chasse, vous prenez un chien, pas un chat. Parce que les chiens ont du flair, tout simplement. Puis qui sont capables aussi de ramener un gibier puis de lui mordre les jarrets. Bon, hein, les chats, moins, beaucoup moins. C'est la nature du chien qui fait que vous prenez un chien pour aller à la chasse. Voilà. Là, on est en train de se poser la question. Toutes les œuvres que Dieu fait à l'extérieur de lui-même, Dieu fait ses œuvres comme tout être, avec sa nature, par sa nature. Or, la nature, il n'y en a qu'une. Elle est donc absolument commune au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Elle est identique. Donc, qui fait à l'extérieur ? Ben, ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit individuellement, si je puis dire, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous les trois ensemble. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base. Si on l'oublie, on ne comprend rien de ce qui va suivre. Qui a ouvert la mer Rouge ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui a créé le monde ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui a tous les miracles ? Qui les a faits ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est tout des œuvres à l'extérieur de Dieu, ça. Voilà. Et puis ainsi de suite. Qui a fait les étoiles, qui a fait les forêts, qui a fait les océans, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois. Ça, c'est la réalité. Et cependant, l'Écriture sainte, les miracles de notre Seigneur, en tant qu'ils relèvent directement de la puissance divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors là, c'est une œuvre à l'extérieur de la Trinité, et sans aucune... Il n'y a que deux œuvres qui relèvent d'une personne divine en particulier, la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu. C'est tout. C'est ce que je suis en train de dire là.
C'est peut-être la manière de parler.
Oui, mais on va le voir. Mais c'est une manière de parler du Saint-Esprit, de la Sainte Écriture. C'est ce qu'on appelle l'appropriation. Mais donc, tenez que vous pouvez citer toutes les... dès que Dieu agit, mais sans aucune exception que les processions en Dieu. Autrement dit, à chaque fois que Dieu agit à l'extérieur de lui-même, ce qu'on appelle les œuvres à l'extra, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourtant, l'Écriture sainte attribue le plus souvent toutes ses œuvres à l'une des personnes en particulier. Et pratiquement, âgé continu, hein. Voilà. Au hasard, évidemment que non. Mais en respectant la place propre de chaque personne dans la Trinité. Voilà. Dans la Sainte Écriture, c'est pas fait comme ça. Le principe de base n'est pas respecté. Sauf quand on dit Dieu fait. Bon, ben là, il est respecté, si vous voulez. Mais de très nombreuses œuvres à l'extérieur de Dieu sont attribuées à telle personne en particulier. Voilà. Alors, au hasard, non, évidemment. Saint-Esprit ne fait rien au hasard. En respectant la conformité de cette œuvre à la personne dans la Trinité. C'est-à-dire que, dès qu'on donnera les exemples, ça devient clair, hein, en respectant la place de la personne dans la Trinité. Voilà. Le Père, quelle est la place du Père dans la Sainte Trinité ? Ben, c'est qu'il est au principe de tout, et il n'a pas de principe. Je n'ai pas dit cause, hein, attention. Le Fils n'est absolument pas causé par le Père. Mais absolument pas, ça c'est hérétique. Ça veut dire que le Fils n'est pas Dieu, c'est à rien. Tout simplement. Mais en revanche, le Père est au principe, ne mélangez pas le principe et la cause. Hein. Voilà. Le Père est au principe et n'a pas de principe. Très bien dit aussi dans le symbole de Saint-Athanase.
Donc voyez, les œuvres qui nécessitent une puissance, la puissance du principe, et même dans la création, la causalité à l'état pur, on va les attribuer au Père. Et c'est normal. Alors regardez dans votre credo. Les premiers mots du credo commencent comme ça. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et ensuite, en son Fils unique, etc. Vous voyez bien que la création, qui est une œuvre de puissance, est attribuée au Père. Qui a créé le monde? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais on l'attribue au Père. Qu'est-ce qu'on va attribuer? Les plus grands miracles, par exemple. La résurrection de notre Seigneur est attribuée dans l'épître de Saint-Pierre à Dieu. Dieu l'a ressuscité au Père. Et dans d'autres textes, le Christ s'est évidemment ressuscité lui-même. Mais voyez, Saint-Pierre, pour montrer la puissance du miracle de la résurrection, qui est c'est le cas unique, la résurrection, l'attribue au Père. Le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Parce que c'est une œuvre de puissance. Voilà. Le Fils, qu'est-ce que c'est dans la Trinité? Il procède du Père par voie d'intelligence. On va donc lui attribuer toutes les œuvres d'intelligence, de sagesse, de connaissance. L'ordre du monde, par exemple, est attribué dans le livre de la sagesse sans arrêt à cette émanation, si je puis dire, de Dieu, qui est la sagesse, qui est son propre Fils. À la lumière du Nouveau Testament, c'est évident. Tout l'ordre du monde est attribué. Le jugement, pourquoi on dit que c'est le Fils qui va juger les vivants et les morts? C'est bien dans votre credo, ça. Le jugement est par définition une œuvre d'intelligence. C'est quoi le jugement? C'est d'arriver à trier le bon d'avec le mauvais. Qui peut juger bien? Celui qui est l'intelligence. Alors attendez, je n'ai pas dit que le Fils était intelligent, que les autres ne l'étaient pas. Mais je dis, dans la Trinité, parce qu'il procède du Père par voie d'intelligence, le Fils, on va lui attribuer toutes les œuvres d'intelligence. Et en particulier, le jugement. Regardez, c'est qui va juger? Ben, c'est Jésus-Christ qui va nous juger. Mais c'est dans son humanité aussi. Alors voilà ce qui lui est propre. Dans son humanité, il nous jugera aussi. Mais enfin, ce n'est pas l'humanité de Jésus-Christ qui peut juger, c'est la lumière divine qui va juger. Donc c'est Dieu qui va juger. Et c'est une œuvre d'extra par rapport à la Trinité que le jugement de tout homme. Jugement dernier, jugement particulier, jugement général. Et bien néanmoins, le Fils passe son temps dans l'Évangile à répéter que c'est lui qui jugera. Voilà. Alors ça a deux sens, si vous voulez. Il s'attribue à lui ce jugement parce que c'est l'appropriation, et également parce qu'il nous jugera comme homme. Bon, c'est une autre question. Et finalement, je finis par là, on attribue au Saint-Esprit toutes les œuvres d'amour parce que le Saint-Esprit, il est le Dieu, la nature divine, comme aimé. Et là, c'est encore plus caractéristique. Toutes les œuvres de charité et de sanctification qui procède de l'amour de Dieu, quand est-ce que quelqu'un est saint, par l'amour de Dieu et dans l'amour de Dieu. C'est ça la sainteté et rien d'autre. L'incarnation est attribuée au Saint-Esprit. Parce que c'est une œuvre de charité de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Et bien quand l'archange Gabriel annonce à la Sainte Vierge qu'elle va concevoir, donc il lui annonce le mystère de l'incarnation, elle conçoit de qui? Du Saint-Esprit. Elle conçoit du Saint-Esprit. Voilà. Qui a fait le mystère de l'incarnation? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais sans aucune distinction. Je vous renvoie au principe, au préambule. Voilà. Mais comme c'est l'œuvre de charité par excellence que lui sert l'incarnation, de l'amour de Dieu pour les hommes, alors c'est le Saint-Esprit qui est mis en cause. Lui seul, dans le récit. Voilà. La rédemption, c'est Jésus-Christ qui l'a faite. Eh bien, elle est une œuvre attribuée au Saint-Esprit, parce qu'elle est une œuvre de charité. Il s'est livré par l'Esprit-Saint. Saint Paul. Voilà. Il s'est livré par l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance au mystère de la rédemption. Parce que si Jésus-Christ était allé à la croix sans amour, nous ne serions pas sauvés. C'est l'amour de Jésus-Christ dans ce mystère qui nous sauve. Et ça, l'amour de Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu, et c'est attribué au Saint-Esprit. Voilà. L'inhabitation des âmes des justes on l'attribue, c'est l'inhabitation de Dieu. Bon, on verra cette doctrine. Et d'ailleurs,
Notre Seigneur le dit bien à celui qui nous ouvre, hein, nous viendrons, il parle au pluriel là, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure. C'est la nature divine qui est présente dans l'âme d'un juste. N'empêche que c'est vraiment l'œuvre de sanctification et de charité de Dieu, parce qu'il est là comme un hôte, quelqu'un qu'on aime, et voilà pourquoi il est là. C'est par l'amour qu'il est là. Donc, on dit que c'est le Saint-Esprit qui habite dans l'âme des justes. Les dons du Saint-Esprit, pareil. Les dons du Saint-Esprit, hein, il y en a qui sont d'ordre intellectuel, la science et l'intelligence. Et néanmoins, ils sont tous appelés des dons du Saint-Esprit. Parce que c'est vraiment la marque de l'amour de Dieu sur une âme. Au lieu de la laisser ramer toute seule, hein, comme dans les vertus. Alors, après avoir parlé de Dieu, de son existence, de ses attributs, et puis finalement des mystères, et en particulier du mystère de la Sainte Trinité, qui nous introduit en plein surnaturel, nous avons une petite leçon intermédiaire avant d'attaquer la question de l'homme, sa nature, et puis le péché originel, et finalement la solution du péché originel, eh bien, le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Nous avons une petite leçon intergalaire, si je puis dire, sur les anges. J'allais dire, par rapport à notre salut, les anges sont une question à la limite facultative. Évidemment que c'est deux fois, donc tout chrétien doit croire qu'il y a des anges. Mais enfin, c'est un petit luxe dans la révélation, en ce sens que c'est Dieu qui nous sauve, c'est le mystère de l'incarnation. Toutes les autres leçons, vous voyez, sont absolument indispensables à notre salut. Dieu nous a révélé les anges. Bon, alors, bien sûr, s'il l'a fait, il l'a bien fait. Mais, à la limite, il aurait pu ne pas nous parler de l'existence des anges. Il aurait pu. Et ça ne changerait pas grand-chose, si vous voulez, à l'économie de notre rédemption. Et, par contre, enlever une autre leçon, ça, c'est pas possible. Enlever le péché originel, on comprend plus l'incarnation. Enlever l'incarnation, il n'y a plus rien à comprendre. Dieu, etc. Donc, il y a une petite leçon luxueuse, si vous voulez. Seulement, Dieu n'y est pas allé de main morte, parce que si vous regardez la Sainte Écriture, il est question des anges de la première page à la dernière, sans aucune exception. Sans aucune exception. Alors, entre Dieu, infini et totalement simple, puisqu'aucune distinction n'existe en lui, vous vous souvenez, il n'y a pas la moindre distinction en lui, c'est un des attributs de Dieu, c'est la simplicité à l'état pur, aucune distinction, c'est-à-dire pas de matière ni de forme, puisqu'il n'est que forme, il n'est qu'esprit, il n'a pas de corps, et il n'y a surtout pas en lui la distinction qui fonde toute créature. C'est quoi la distinction qui fonde toute créature?
Son être et son existence.
Voilà, l'être entre l'essence et l'existence. Voilà. Alors ça, on peut dire que c'est la définition de Dieu, hein, l'être dont l'essence est d'exister. Et bien c'est précisément l'absence de cette distinction en Dieu qui fait qu'il est Dieu, tout simplement. Alors il existe d'autres créatures, et l'homme d'une part, Dieu d'une part et l'homme d'autre part. Alors l'homme est l'être le plus compliqué, on le reverra la semaine prochaine. Il y a toutes les distinctions possibles et imaginables en l'homme. C'est plus compliqué qu'un animal, un homme. C'est plus compliqué qu'un ange, et c'est infiniment plus compliqué que Dieu. C'est d'ailleurs la grande misère de l'homme, c'est sa complication. Eh bien, il existe une place, j'allais dire théoriquement, il y a une place laissée libre de créatures entièrement spirituelles, évidemment, donc matière et forme, cette distinction n'existe pas, mais évidemment qui sont des créatures où l'essence et l'existence sont distincts. Voilà, là il y a un créneau. Eh bien, ce créneau, on pourrait le deviner. Les anciens l'avaient, même ceux qui n'avaient pas la foi, l'avaient deviné. Les esprits, ils y croyaient, il n'y a pas de doute. Alors, ils n'en avaient pas une vraie théologie, parce que comme on ne peut pas les voir, on peut se fonder uniquement sur la révélation. Eh bien, la révélation, précisément, nous dit qu'ils existent. Voilà, que Dieu les a créés, et dans une magnificence qui est absolument impressionnante. Mais c'est la révélation qui nous dit qu'ils existent. Sauf, évidemment, que comme ils existent, puis comme on va voir, il y en a des bons et des mauvais, c'est-à-dire c'est plutôt par le truchement des mauvais esprits que les hommes avaient conscience de l'existence de ces créatures qu'on appelle les anges. Parce que on voit bien que chez tous les païens, ils croyaient à des esprits, et puis à des esprits mauvais essentiellement, hein, essentiellement. Qui intervenait à peu près partout. Le psaume de David, hein, que nous lisons régulièrement, dit que toutes les idoles des nations sont des démons.
Et c'est vrai que le démon s'est fait adorer, s'est fait rendre un culte dans ce culte idolatrique à peu près universellement. Alors, premièrement, nature et existence des anges. Deuxièmement, l'intelligence des anges. Troisièmement, la grâce des anges. Quatrièmement, le nombre des anges. Cinquièmement, l'épreuve des anges. Sixièmement, hiérarchie et cœur des anges. Et finalement, septièmement, influence.